maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse.
Et maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie au salon de Essen de Roberto Fraga. Bonjour Roberto.
Bonjour Nicolas.
La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a pas mal de temps, parce qu'on a réussi quand même à se télescoper quelques rendez-vous à travers les différents salons. On est à Essen. Depuis la dernière fois où on s'est rencontrés, effectivement, tu as créé Fragames. Puisqu'à l'époque tu étais encore auteur de jeu, tu n'avais pas encore quitté ton vrai métier, comme on dit. Et maintenant on est dans une logique où c'est même, allez, on a l'impression que tu deviens un agent, tu aides des auteurs, donc on est vraiment passé à une vitesse supérieure. Est-ce que je me trompe?
Pour la vitesse supérieure, oui, elle est très supérieure. D'ailleurs, ça se ressent un peu sur le physique, sur le volume. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai changé de statut professionnel, donc j'ai quitté l'administration des douanes en décembre 2010. Donc du coup, en même temps, j'ai dû changer de statut pour des raisons fiscales, parce qu'en France, c'est un peu compliqué. Je vais peut-être venir en Belgique.
Apparemment, c'est à la mode.
Ouais, c'est à la mode. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'activité création, ça reste quand même 90% de mon activité, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et Fragames, c'était un nom que je mettais depuis 30 ans sur les boîtes de jeux pour le fun, pour rigoler, parce que ça sonnait bien, Fragames. Si je m'étais appelé Dupont, ça serait différent. Et du coup, quand il a fallu trouver un nom à la structure, ça s'est appelé Fragames. Il a fallu attendre 50 ans.
Donc là, tu parles de structure, effectivement. Ce n'est plus auteur de jeu. Là, tu parles d'une structure. C'est quoi cette structure?
En fait, c'est simplement une SARL. C'est qu'en France, à partir d'un certain seuil, quand on commence à toucher un petit peu de royalties, on est obligé d'avoir un statut, sinon pour des histoires de taxation, de cotisation sociale. C'est un petit peu compliqué au vu de l'activité. Et c'est comme si tous les écrivains devaient être en SARL, tous les artistes peintres, mais auteurs de jeux, c'est très compliqué en France. Donc du coup, j'en ai profité pour, vu que j'étais en SARL, pour élargir un petit peu au cas où, et à l'activité d'agent et même d'édition. Et donc l'activité d'agent, ça s'est fait naturellement parce que de temps en temps il y avait des auteurs qui me demandaient, ils n'avaient pas envie de se déplacer, ils n'avaient pas les contacts, et donc ça s'est fait.
Donc le terme agent, c'est tu prends des jeux, des prototypes d'autres auteurs et tu t'occupes de le présenter à des éditeurs potentiels, c'est ça l'histoire?
Oui, c'est ça, exactement, comme beaucoup d'agents, comme l'ont fait Weekend Games dans le temps, comme le font Bar David, qui est un agent israélien assez connu. Et moi, je le fais simplement occasionnellement, et j'ai bien spécifié sur une page spécifiée voilà, sur le site Fragames que je voulais prendre que des jeux qui correspondent à ce que je fais comme type de jeu. C'est-à-dire, je veux pas faire comme beaucoup d'agents montrer de prendre tout ce qui passe, et je veux simplement me sélectionner parce que en fait, j'expliquerai mieux des jeux qui me correspondent, et je pourrais éventuellement y apporter une petite patte personnelle si c'est mon style. Donc je pourrais pas montrer du gros jeu, ça serait pas efficace et ça me plairait pas. Et donc du coup, depuis que j'ai fait ça, j'en ai placé un d'un auteur du nord de la France, et curieusement je l'ai mieux défendu que si ça avait été mon propre jeu, puisqu'en fait je l'ai signé avec 5 éditeurs différents en travaillant par territoire, et ce qui est plus intéressant parce qu'en fait au niveau vente, il faut toujours essayer de trouver le meilleur interlocuteur par zone géographique, ce qui n'est pas toujours évident. Et du coup, là, j'avais moins de pression, c'était pas mon jeu. Et donc, il a été signé 5 fois, il va sortir l'année prochaine et l'année suivante. Donc, pour le côté exotique, il a même dans les pays concédés pour l'éditeur russe, il y a aussi le Kazakhstan. Donc, après, je sais pas s'ils vont dans beaucoup de jeux là-bas, mais c'était pour...
Un territoire émergent au niveau du jeu.
Ah oui, c'est très émergent. Et donc, ça, c'est l'activité d'agent. Il y a un ou deux autres trucs, mais je suis super difficile, en fait.
Et on parle de quel jeu, là? On peut le dire?
Non, pas encore. Hein. C'est un party game assez rapide, un peu dans la gamme, un peu Mime 2. Donc, selon ce style. Et après, il y a d'autres trucs en cours. La priorité, ça reste quand même la création. Il faut vraiment que je flash sur un truc qui soit comme si c'était une idée Fraga, et une des meilleures idées Fraga, parce qu'elles ne sont pas toutes forcément meilleures.
Ça veut dire que si tu filtres, c'est toi qui vas voir l'auteur et dire « Tiens, donne-moi ton jeu, je vais m'en occuper », plutôt que de laisser les auteurs venir te présenter leurs choses.
Alors, donc, pour le filtre, justement, qu'est-ce que j'ai fait sur...
Qui est le filtre?
Qui est le filtre? Eh bien, sur le site Fragames, il y a une page Fragames Plus comme Monsieur Balzen pour voilà. La petite touche plus. Et avec un...
Il manque la moustache, quand
même. Il manque la moustache, oui. Mais la moustache, on va l'avoir l'année prochaine, au mois d'août.
J'en ai entendu parler. Ouais.
Ça va être dur. Et du coup, j'ai fait un formulaire, un PDF à remplir avec différentes questions. Et un petit système, c'est limite un petit jeu. Et quand on atteint un certain nombre de points, on peut se permettre d'aller au formulaire suivant, qui est la présentation du jeu. Après, tout le monde peut un peu tricher. Sachant que la dernière question, c'est avez-vous au moins un jeu Fraga dans... chez vous qui vaut 5 points. Non, mais c'est... bon, même si les gens trichent un peu de temps en temps, c'est pas grave. Après, je vois rapidement si ça correspond à...
Ça permet de mesurer un peu la motivation de l'auteur.
Ouais. Oui, et puis c'est pas la peine de donner de faux espoirs et de vouloir s'emballer sur un truc. Donc du coup, j'ai dû refuser 99% des trucs et puis je pense qu'il vaut mieux se concentrer efficacement sur un bon truc, sur un bon projet et le défendre bien, ce que j'ai fait pour ce gars-là. En plus, il est très sympa, donc le contact est bon. Donc
c'est un auteur français ?
Oui, c'est un auteur français du Schnorr de la France. Très sympa, qui est venu au Corsaire Ludique. Bientôt, tu connaîtras son nom. Bientôt, il apparaîtra en lettres de feu sur l'Olympia à Paris.
Magnifique. Ok, mais donc ça, c'est ton activité d'agent. J'imagine que tu as aussi différents prototypes que tu es en train de défendre, mais évidemment, on peut encore moins en parler. Mais tu le dis, c'est la créativité. Tu le dis, c'est la création qui est le plus important pour toi. Donc, ça veut dire que tu continues à développer des jeux. Est-ce qu'on peut un peu parler de l'actualité Roberto Fraga et pas Fragames ?
Oui, l'actualité Roberto Fraga. Donc, bien sûr, les créations, ça, il n'y a pas de problème. Il y en a toujours beaucoup, même beaucoup trop. L'actualité Fraga dans les jeux qui sortent sur le salon, il y en a un. Et en fait, il me tient à cœur plus que les autres, puisque c'est le premier jeu que j'ai publié en 2000 avec Jeu des cartes. Donc, ça remonte à 12 ans. Et bon, ça reste mon jeu de moi préféré, celui auquel je rejoue volontiers. Donc c'était Les Dragons du Mékong, publié par Jeu des Cartes, qui avait été Gobelet d'Or à Boulogne. Et c'est ça ce qui m'a lancé en fait.
Oui, c'est ça.
Le concours de Boulogne, je les remercie toujours parce que c'est un petit peu grâce à leur initiative et leur prix que ça a débuté. Donc Jeu des Cartes, et ensuite après, Descartes ayant terminé son activité, Asmodée a repris le jeu, l'a gardé un an, et il a décidé de l'arrêter. Et ça a été repris donc par Matago l'année dernière. On a signé ici même au salon. Et ça me faisait très plaisir parce que tout le monde connaît la gamme Matago et la super qualité des produits, Takenoko, Dice Town, etc. Et donc, je me disais que c'était l'éditeur idéal pour ce genre de choses. Et ils ont fait, je ne sais pas si tu l'as vu sur le stand, ils ont fait un truc, mais c'est hallucinant. Honnêtement, j'ai jamais eu un... Je leur ai dit 36 fois, bon, je vais me répéter. Honnêtement, j'ai jamais eu de tous mes jeux, c'est le plus beau jeu qui ait été publié.
Il a été un peu remanié entre le... Donc, il est sorti quoi il y a 12 ans, c'est ça que tu disais ?
2000, oui. Ouais, il est sorti en 2000. Hein, il avait été As d'Or du jeu familial à Cannes. À l'époque, il y avait des catégories. Il y avait le Super As d'Or et des catégories. Le Super As d'Or, ça avait été Blocus, il me semble. Et ensuite, il avait été nominé au Spiel des Jahres, mais cette année, c'était Carcassonne qui était là, donc c'était difficile de combattre. Donc, il a eu... on est revenu un petit peu aux sources du Mékong, justement, c'est le cas de le dire. Puisque le plateau, la seule différence, c'est que le plateau est recto verso. Oui. Et au verso, les îles... on ne voit plus les petites îles, car le Mékong est en cru. Donc, du coup, on a juste la rivière, pas d'île. Et on joue directement, en principe, dans la première version, on pose ces petites briques sur des îles. Ça sert un peu de repère pour les distances des longueurs de planche. Là, il n'y a plus d'îles, donc on n'a plus de repères visuels. Donc l'estimation des distances est beaucoup plus importante. Bon, on ne se plante pas, mais c'est une autre façon de jouer. Enfin, c'est assez marrant de jouer sur un plateau où il n'y a strictement rien.
Donc on doit estimer en fait la longueur, et si on s'est trompé, ben on s'est trompé.
Si on s'est trompé, et s'il n'y a aucun endroit où on peut poser la planche, elle est emportée par le courant et perdue à tout jamais. Et on doit même, normalement, dans la règle optionnelle, la briser en deux et l'acheter à la poubelle, ce qui fait que tu es obligé de racheter des planches régulièrement.
D'un point de vue commercial, c'est pas mal. L'historique des Dragons du Mékong, justement, d'où est venue cette idée, sachant que c'était ton premier jeu ?
En fait, c'est venu, il me semble, d'un reportage. J'ai dû voir un reportage sur une région du Vietnam, et c'est venu en voyant cette image-là. Je me suis dit, ça serait sympa de faire un petit jeu où on traverse une rivière avec des planches. Ensuite, au départ, il n'y avait pas de plateau, donc il y avait des villages de départ et on jouait sur la table. Donc du coup, quelque part, avec cette nouvelle version, on est revenu un petit peu au début à l'idée initiale, et c'est venu de là tout simplement. Mais par contre, c'était le jeu qui m'a pris le plus de temps à développer, parce que il a eu demandé pas mal de tests, de réglages, etc.
Il a l'air assez simple. Ouais. Justement, pour éclairer un peu l'auditeur, quels sont les réglages qu'on doit faire sur ce genre de jeu-là?
Bah, c'était des réglages au niveau taille de planche, au niveau carte action. Avant, en fait, au début, le jeu était beaucoup plus complexe. Hein. Il y avait d'autres actions, des types d'actions du style je fais la même action que le joueur à ma gauche. Ça faisait beaucoup trop, il fallait épurer. Et j'étais un petit peu long à l'époque, c'était dans mes premiers jeux, donc j'étais moins efficace que maintenant. Donc ça m'a pris du temps. Mais ce qui est sympa, c'est que c'était à l'époque où mes enfants avaient, ils avaient 12 ans de moins. Donc ils avaient 10 et 12 ans, ouais. Et ils ont vraiment suivi toute l'évolution du premier jeu jusqu'à l'édition. Donc ils ont un très bon souvenir aussi de la chose.
Ouais. Ils ont un bon souvenir, ça n'a pas été encore... Papa ressort encore son prototype.
non, c'est ça. Non, c'était elle qui demandait à le sortir, oui, contrairement à d'autres, où des fois. Après, il y a eu beaucoup de. J'ai multiplié la création, ensuite, je les ai beaucoup sollicités, forcément. Et il y a des moments. Bon, après, tu sais comment c'est, à l'adolescence, les enfants ont d'autres préoccupations. Mais maintenant, là, elles sont plus grandes et elles reviennent vers moi avec leurs petits copains en disant ouais, papa, on aimerait bien. Bon, ça fait plaisir.
C'est mon papa qui l'a fait.
Mon papa qui l'a fait, ouais.
le pitch de River Dragons maintenant, donc c'est quoi la mécanique?
Donc la mécanique, donc, c'est un plateau qui fait environ 50 par 50 cm, un plateau carré, avec qui représente le delta du Mékong, donc une zone avec de l'eau et des petites îles et 6 villages de départ qui sont tout autour. Donc on peut jouer de 2 à 6, ce qui est sympa dans un jeu. C'est un jeu de type familial et c'est un jeu de programmation. Donc on doit traverser en partant avec son pion du village où on est pour aller dans le village en face. Et pour traverser, comme on n'a pas de hors-bord ou de ski nautique, on nage pas, on construit des ponts en posant des petites pierres sur les îles. On pose des petites planches entre les pierres et on avance, sachant qu'il peut y avoir qu'un pion par planche. Et donc on a des cartes pour toutes ces actions, poser des planches, avancer, sauter par-dessus un autre pion, annuler l'action d'un joueur adverse, c'est la carte dragon. Et donc on en choisit 5, on fait une programmation de gauche à droite. On les révèle simultanément, et il y a un premier joueur, et donc il y a beaucoup de surprises, parce qu'on s'attendait que le joueur allait avancer, qu'on pourrait lui sauter par-dessus, etc., mais il ne l'a pas fait. Donc il y a plein de rebondissements, et jusqu'à la dernière seconde, il peut y avoir des renversements de situation, et c'est tout à fait, c'est pas un jeu qui va plaire aux hardcore gamers, parce qu'il n'y a pas tellement de contrôle, surtout si on joue à 5-6, mais par contre, les boutiques l'aiment beaucoup, parce que c'est un jeu pour... amener au monde du jeu des gens qu'ils connaissent pas forcément. Donc c'est pour ça qu'il s'est bien vendu à l'époque. Les boutiques l'aiment beaucoup. On débute par ça, ensuite après on a envie de faire autre chose. Donc c'est un excellent jeu familial.
Alors ça c'est River Dragons, c'est la sortie SE maintenant. Qu'est-ce qui nous attend, sachant qu'il y a Nuremberg, il y a New York, j'imagine que Roberto va encore aller à New York cette année. Donc j'imagine qu'il y a des choses qui sont planifiées.
Ouais, il y a toujours des choses qui sont planifiées. Au niveau salon, au niveau salon, on se déplace beaucoup et en début d'année, on va même faire un nouveau... On va aller faire un tour à la Toy Fair à Hong Kong, mais c'est juste pour voir à quoi ça ressemble, parce que je pense qu'au niveau jeu, c'est pas très important. C'est juste un petit contact. Puis on voulait voir quelques éditeurs taïwanais qu'on connaît depuis quelques temps, mais simplement par mail. Donc on voulait les voir directement là-bas. Il y a un éditeur de Hong Kong qui s'appelle Jolly Sinkers, qui est d'ailleurs un stand ici, qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est un petit peu en Asie, ça commence un peu à bouger, donc il y a des possibilités et je me dis pourquoi pas, vu que je suis l'agent de moi-même aussi, donc autant se débrouiller soi-même. Donc on va faire Hong Kong, Nuremberg, New York, Cannes. Donc ça va être c'est pour ça qu'en novembre et décembre j'ai eu plein de gens qui me demandaient de venir à des festivals et j'ai tout refusé parce que j'ai envie pour une fois de me concentrer à 300% sur les jeux. Et j'ai étudié souvent du mal d'ailleurs, et donc là il faut vraiment bosser. Et dans ce qui va sortir l'année prochaine, eh bien, à Nuremberg précisément, il y a la version jeu de cartes de la danse des œufs. Et oui, c'est donc ABBA m'a demandé de faire une version jeu de cartes, car en ce moment, avec la situation que tout le monde connaît, on veut faire des jeux pas chers, en petite boîte, de jeux à succès, donc la danse des œufs, c'était quand même, on doit être à 300 000 boîtes. Donc ils m'ont demandé de faire cette version-là. Je m'y attendais, ils m'avaient prévenu depuis un an. Pour moi, c'était pas forcément une bonne idée, parce que voilà. Mais ils me demandaient depuis un an, et un jour, en mois de juillet, en pleine préparation du Corsair Ludique, je reçois un mail le mercredi en me disant « Roberto, il nous faut absolument une version du jeu pour vendredi ».
Comme d'habitude.
Et alors, curieusement, quand j'ai beaucoup de pression, je travaille beaucoup mieux, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais... Enfin bon, ça s'est bien passé, donc du coup, ça s'est fait.
Et donc ça veut dire quoi ? On va cacher des cartes, on va coincer des cartes dans nos...
C'est ça. Ça, en fait, ça va s'appeler la danse des œufs au plat.
C'est raccord.
Petite modification de règles, mais ils voulaient garder l'esprit. Bon, après...
Donc un paquet de cartes et 2 dés.
Et 2 dés, il y aura un petit œuf aussi, et un bois. Et il y aura juste quelques modifs, mais ça va ressembler un petit peu à l'autre.
Mais c'est qu'on peut y jouer en voiture aussi, ou c'est ça leur volonté, c'est de pouvoir jouer partout ?
Et en voiture, je pense pas, parce qu'à un moment, il faut qu'on se lève, donc ça risque d'être un peu compliqué. Mais c'était pour avoir une version un peu plus light. On a juste changé 2 points de règle, mais en fait, ils veulent pas trop qu'on en parle pour l'instant. Bon, voilà, c'est la danse des œufs au plat. Et ensuite, pour SN de l'année prochaine, on a signé un jeu chez... Je dis on, parce qu'on se déplace toujours avec Florence, mon épouse. Et on a signé un jeu chez Ocean Friends. Donc, c'est un jeu de démolition pour gamins.
Et qu'on lance des choses ?
Oui, on construit des tours en bois sur des cartons sur lesquels il y a des points. Et le but du jeu, c'est d'arriver pile à tant de points. Et donc, ces cartons posés sur la table représentent des quartiers avec des points. Il y a un joueur construit et les autres démolissent. Sachant que s'il faut atteindre 13 points, si tu as déjà 10 points, il faut absolument que tu construises sur le quartier 1 et 2 ou sur le quartier 3. Donc voilà. Et les gamins adorent démolir. Et quand j'ai présenté le jeu l'année dernière, je leur ai dit, pour lancer le truc, c'est que vous avez un jeu de construction dans votre collection et moi j'ai le jeu de démolition. Ils ont bien aimé, donc voilà.
Pas mal.
Et donc, sinon, dans les trucs encore en développement, il y a toujours le fameux Panic Block chez les Sombreros de Repoprod. Et celui-là, il a du retard parce que, sachant le succès qu'ils ont eu avec Seven Wonders, donc du coup, ils se sont concentrés là-dessus et c'est bien normal. Et après, c'est Repoprod, c'est un éditeur qui prend son temps. Et je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils fassent les choses parfaitement comme ils le font d'habitude.
Et justement, Panic Block, là, on est sur un jeu coopératif. J'ai eu l'occasion de le tester, justement. C'est un peu beaucoup déjanté. Là, on retrouve le Roberto Fraga qui déconne à fond.
Oui, en fait, c'est une simulation d'une opération. Ouais. Peut-être un petit peu exagérée.
En tout cas, je ne veux pas me faire opérer là-bas.
Et c'est ça, c'est une simulation. Donc c'est un jeu coopératif. Il a été un moment semi-coopératif dans une version précédente. Et on est revenu au coopératif parce que c'était mieux. Donc du coup, c'est une succession de... On doit sauver un patient. Il y a un bip cardiaque qui sera sur un CD avec un bip cardiaque qui accélère et des arrêts cardiaques qui arriveront de manière aléatoire. Et il y aura une application téléchargeable gratuitement pour pouvoir jouer avec son smartphone et d'une durée à moyenne de 12 minutes, opérer un patient avec certaines contraintes, avec des cartes, différents actes à faire qui sont une suite de cartes. Et donc on peut jouer de 2 à 9. Quand on joue par exemple à 8, eh bien, il y a 4 infirmières, 4 chirurgiens, donc il y a 4 opérations en simultané sur le même patient, ce qui est un peu dangereux.
Oui.
Et il y a un cœur, donc il y a un cœur forcément pour les massages cardiaques qui est représenté dans le jeu par un coussin péteur. En fait, ça représente un peu l'opération telle que les gens l'imaginent, sachant que c'est quand même un peu plus soft et organisé. Mais c'est complètement déjanté. Il y a du bruit partout. On a refait un tournoi au Québec là, avec 4 tables en simultané. On avait amené donc dans une valise pleine de blues et de matériel médical. Heureusement, je me suis pas fait arrêter à la douane.
Oui, c'est ça. Pas mal. Ouais. Ok, et ça c'est une idée qui vient peut-être du métier de Florence ?
Non, cette idée, elle vient en fait d'une situation un petit peu dangereuse. C'est qu'en décembre 2008, j'étais dans mon ancien métier de garde-côte en mer. On était en train de poursuivre un navire qui transportait soi-disant de la cocaïne au large de Cherbourg sur la Manche.
Ce n'est pas un jeu, c'était la vraie vie de Roberto.
C'était la vraie vie plus sérieuse.
Voilà.
Et du coup, je me suis cassé la jambe tibia péronée en spirale au moment de sauter dans un Zodiac. Après, ce jour-là, tout était contre nous. La météo était mauvaise, il faisait nuit, il faisait froid. Et quand tout s'accumule, et quand au lieu de prendre l'échelle pour descendre dans le bateau, tu sautes. Et à un moment, forcément, tu augmentes les chances de te... Et donc, j'ai été opéré à Cherbourg. Et ma façon de positiver à ce moment-là, sur le brancard, avant de rentrer dans le bloc, c'était d'avoir une idée de jeu là-dessus. Donc voilà, ça peut venir de n'importe où.
Auteur de jeu 24 heures sur 24.
24 heures sur 24. Mais c'est ça, c'est un moment négatif. Donc tu cherches des moyens de voir les choses autrement.
C'est bien exorcisé, parce que pour avoir vu le jeu, c'est...
Et par contre, pour la petite nouveauté, c'est que ce sera un jeu qui sera signé de Florence et Roberto Fraga.
Ah, ça c'est bien.
Ou l'inverse, je ne sais pas dans quel ordre on va le mettre, on en discute.
Parce qu'elle a participé à fond dans le design.
Elle a participé aussi un petit peu, elle me donnait les conseils techniques, même si des fois c'était un peu trop sérieux, donc je lui disais on va faire ça, elle me dit mais ça se fait pas dans une opération, je lui disais on s'en fout. Et donc elle a pas mal participé, comme elle est infirmière en cardiologie, donc du coup je trouvais ça, elle me suit depuis très longtemps. Et,
chouette hommage.
Ben oui c'est ça, c'est un chouette hommage, et donc voilà, c'était... Ça me paraissait bien.
Ok, donc ça, c'est l'actualité. Mais alors, il y a un truc, évidemment, qui vous occupe aussi. Je dis vous, parce que c'est une fameuse équipe, c'est le Corsair Ludique. Ça a failli être le dernier cette année. Heureusement, bon, les gens qui sont venus ont réussi à sauver un peu le monde. Apparemment, on commence à se déplacer au Corsair Ludique.
Oui, puisque, en fait, après la fin du monde évitée, on voulait une sorte de renaissance un petit peu dans un lieu nouveau, un peu comme les survivants d'un monde perdu qui vont renaître un peu à la montagne. Et donc, du coup, on a carrément exporté le concept et on va, l'année prochaine, aller donc près de Gap, à 20 km à l'est de Gap, à l'entrée du parc des Écrins dans les Hautes-Alpes, à Pont-du-Fossé, dans un centre de vacances. Donc, ce sera du 20 au 25 août. Et là, avec une thématisation République bananière.
Donc, d'où la moustache.
D'où la moustache, où d'ailleurs, la dernière réunion de Géo, là, avant de venir à SN, on a tous juré que les hommes, on se laisserait pousser la moustache pour l'occasion, puisque on sera des guerrieros mexicains. Et du coup, maintenant que j'ai dit oui, je commence à réfléchir.
Pourquoi il a dit oui?
Bon, j'ai dit oui, il faut le faire.
Ah, bon, voilà. Tout à fait. Je veux dire que les joueurs pourraient aussi venir avec une moustache.
Bien sûr. Ah, oui.
Conseiller.
Oui, mais de toute façon, tout sera. On a commencé. En fait, c'est une idée qu'on a eue forcément en buvant un coup. C'est bizarre, les idées.
Étonnant.
Et le thème est arrivé rapidement, et ensuite les idées ont fusé, donc signe que c'est un bon thème.
Oui, c'est ça.
Et donc, les formulaires d'immigration seront envoyés à partir de début mars.
Ok. Et donc là, c'est le 11e Corsair Ludique. Et l'énergie reste, l'équipe reste, s'étoffe même. Et ça reste un excellent moment, même pour vous.
Le 12e, ça sera.
Le 12e?
Oui. Le 11e, c'était cette année, hein?
Pour moi, c'était le... Ah oui.
Peut-être, je ne sais plus.
Le journaliste d'investigation.
Mais l'énergie reste la même. Mais ce qui fait qu'on garde l'énergie et qu'on est motivé, c'est parce que c'est toujours différent. Et les gens ont envie de s'amuser en faisant des choses un peu folles. Et dans l'équipe, on est tous un peu comme ça. Donc, cette année où tu étais donc à Dinan, on avait innové en faisant un système de tuteurs où les gens formaient des groupes, où on voulait qu'il y ait une sorte de lien qui se crée. Et j'avais peur un peu au début que les tuteurs, les géotuteurs aient moins de temps pour s'amuser. Et en fait, à la fin, ils m'ont dit « on a super adoré parce qu'on a... On a eu le temps de parler avec les gens, on s'est impliqué, etc. Et jouer, tu peux le faire toute l'année. Ils ont eu le temps de jouer aussi. Ouais. Mais non, du coup, le résultat était super. Et tout le monde est motivé pour l'année prochaine. Donc il y a des choses en cours. Il y a une piscine aussi, donc c'est bien. Il y a des choses à faire avec la piscine.
J'imagine. La peur, ça installe.
Oui, on est en train de... Bon, je vais dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire.
Non,
mais le fait de... Les idées aussi, elles arrivent quand on change d'endroit, en fait, à un nouveau lieu, ça stimule la créativité aussi. Et du coup, c'est aussi le fait que dans l'équipe, il y a deux créateurs, donc il y a Annick Lebey, il y a moi, donc on a envie de faire des choses nouvelles aussi. C'est pour toujours faire la même chose, c'est pas la peine. Donc du coup, ce qu'il y a, c'est que combien de temps ça durera, des thèmes originaux, on peut en avoir plein, des lieux, il y en a beaucoup, peut-être qu'un jour on ira à l'étranger, on ne sait pas. Sur la Lune, peut-être.
Oui, bonne idée. Avec Félix Baumgartner.
Exact. On lui demandera des conseils, on l'invitera.
Exactement. Merci Roberto. On te souhaite bon voyage, dans le sens où il y aura donc Hong Kong, New York, Cannes et puis Nuremberg. Ça me semble pas mal. On se recroisera certainement à Nuremberg. Et bon salon de Essen.
Ouais, merci Nicolas. À bientôt.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche Trop Cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.